François avait raconté à ce propos une conversation qu'il avait eue avec un homme, lequel, en s'entendant adresser cette parole sur la miséricorde, avait répondu « Ô mon Père, si vous connaissiez ma vie, vous ne me parleriez pas ainsi. J'ai commis des choses terribles. » La réponse avait été « Tant mieux, va voir Jésus. Il aime qu'on lui raconte ces choses-là. Lui, il oublie. Il a une faculté d'oubli très spéciale. Il oublie, il t'embrasse, il t'étreint et te dit seulement « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et dorénavant, ne pêche plus. » C'est le seul conseil qu'il nous donne. Un mois plus tard, nous revoilà au même point. Nous retournons voir le Seigneur. Le Seigneur ne se lasse jamais de pardonner, jamais. Alors, nous devons demander la grâce de ne jamais nous lasser de demander pardon, car lui ne se lasse jamais de pardonner. Cette première homélie de François, qui m'avait particulièrement frappé, insistait sur l'importance capitale du message de miséricorde, qui caractériserait ses premières années de pontificat. Des mots simples et profonds. Le visage d'une Église qui ne reproche pas aux hommes leur fragilité et leurs blessures, mais qui les soigne, grâce à la miséricorde. Nous vivons dans une société qui nous habitue de moins en moins à reconnaître nos erreurs et à assumer nos responsabilités. Ce sont toujours les autres qui sont immoraux, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, jamais la nôtre. Et nous avons parfois affaire à un cléricalisme réactionnaire, occupé à tracer des frontières, à réglementer la vie des personnes, en leur imposant des exigences et des interdits qui rendent leur quotidien encore plus pesant. Une attitude toujours prompte à la condamnation et beaucoup moins à l'accueil. Une tendance constante à juger, mais non à se pencher avec compassion sur les misères de l'humanité. Le message de la miséricorde, qui est au cœur de cette espèce de première encyclique, non écrite, mais contenu dans la brève homélie du nouveau pape, rejetait simultanément ces deux comportements. Un peu plus d'un an après, le 7 avril 2014, François avait commenté le même passage durant la messe matinale à la chapelle de la maison Sainte-Marthe, et il avait avoué son émotion devant ce passage de l'Évangile. « Dieu ne pardonne pas avec un décret, mais avec une caresse. » Et avec la miséricorde, Dieu va même au-delà de la loi et il pardonne, en caressant les blessures de nos péchés. Les lectures bibliques d'aujourd'hui, avait expliqué le pape, nous parlent de l'adultère, qui avec le blasphème et l'idolâtrie, était considéré comme un péché gravissime dans la loi mosaïque. Un péché qui entraînait la peine de mort par lapidation. Dans le passage tiré du chapitre 8 de l'Évangile selon saint Jean, François faisait remarquer que nous rencontrons Jésus, assis là, parmi une foule de gens, occupés à catéchiser, à enseigner. Puis, les scribes et les pharisiens amènent, en la poussant, une femme, sans doute les mains liées, comme nous pouvons l'imaginer. Ils la placent au milieu de la foule et l'accusent. Elle est coupable d'adultère. C'est une accusation publique. L'Évangile dit qu'il pose une question à Jésus. Que devons-nous faire de cette femme? Toi, tu nous parles de bonté, mais Moïse a dit que nous devons la tuer. Il disait cela, commenta François, pour le mettre à l'épreuve, pour avoir une raison de l'accuser. Effectivement, si Jésus leur avait répondu « Oui, procédez à la lapidation », ils auraient pu dire à l'assistance « Le voilà donc, votre maître si bon, regardez ce qu'il inflige à cette pauvre femme ». Alors que si Jésus avait dit « Non, cette malheureuse mérite le pardon », ils auraient pu l'accuser d'enfreindre la loi. Leur seul objectif, expliquait le Saint-Père, était de mettre Jésus à l'épreuve, de lui tendre un piège. Cette femme leur importait peu, aussi peu que l'adultère. Pire encore, certains d'entre eux le commettaient peut-être. Et voilà que Jésus, qui voulait rester seul avec cette femme et lui parler avec son cœur, répond « Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. » Le peuple s'en était allé lentement après avoir entendu ces mots. L'Évangile dit, avec une certaine ironie, que tous les gens s'en allèrent, un à un, à commencer par les plus âgés. Il faut croire que dans la Banque du Ciel, l'état de leur compte ne plaidait pas en leur faveur. Vient alors le moment de Jésus confesseur. Il reste seul avec cette femme qui se tient là au milieu. Entre-temps, Jésus, se baissant, se mit à écrire avec un doigt sur le sable. Certains exégètes affirment que Jésus écrivait les péchés de ses scribes et de ses pharisiens, mais ce n'est peut-être qu'une hypothèse. Puis il se leva et regarda la femme qui était remplie de honte et lui dit « Femme, où sont-ils ? Personne ne t'a condamné ? Nous voilà seuls, toi et moi, toi devant Dieu, sans accusation, sans bavardage vain, toi et Dieu. » La femme avait encore remarqué François dans cette homélie, ne se proclame pas victime d'une accusation mensongère. Elle ne se défend pas en affirmant « Je n'ai pas commis l'adultère ». Non, elle reconnaît son péché et répond à Jésus « Personne, Seigneur, ne m'a condamné ». Jésus lui répond à son tour « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et dorénavant, ne pêche plus. » Donc, concluait François, Jésus pardonne. Mais ici, il y a quelque chose de plus que le pardon. Parce qu'en tant que confesseur, Jésus outrepasse la loi. En effet, la loi stipulait qu'elle devait être punie. Et surtout, Jésus était pur et aurait pu être le premier à lui jeter la pierre. Mais le Christ va plus loin. Il ne dit pas « l'adultère n'est pas un péché », mais il ne la condamne pas au nom de la loi. C'est justement là le mystère, celui de la miséricorde de Jésus. Pour faire miséricorde, Jésus outrepasse la loi qui ordonnait la lapidation. Il va jusqu'à dire à cette femme d'aller en paix. La miséricorde, expliquait dans ce sermon matinal l'évêque de Rome, est quelque chose de difficile à comprendre. Elle n'efface pas les péchés, car c'est le pardon de Dieu qui les efface. Mais la miséricorde est la manière dont Dieu pardonne. Car Jésus aurait pu dire « Moi, je te pardonne, va !» De même qu'il a dit au paralytique « Tes péchés sont pardonnés. » En l'occurrence, Jésus va plus loin et conseille à la femme de ne plus pécher. On voit ici le comportement miséricordieux de Jésus. Il protège le pécheur contre ses ennemis. Il protège le pécheur contre une condamnation juste. Cela, avait ajouté François, est également valable pour nous. Combien d'entre nous mériterait une condamnation, et elle serait juste? Mais lui, il pardonne. Comment? Avec la miséricorde qui n'efface pas le péché, seule l'efface le pardon de Dieu, alors que la miséricorde va plus loin. Elle est comme le ciel. Nous, nous regardons le ciel criblé d'étoiles, mais quand le soleil se lève au matin, avec sa grande lumière, les étoiles ne se voient plus. Ainsi est la miséricorde de Dieu. Une grande lumière d'amour et de tendresse, parce que Dieu pardonne non avec un décret, mais avec une caresse. Il le fait en caressant nos blessures dues au péché, car il est impliqué dans le pardon, il est impliqué dans notre salut. C'est de cette façon, concluait le pape François, que Jésus agit en confesseur. Il n'humilie pas la femme adultère. Il ne lui dit pas « Qu'as-tu fait ? Comment l'as-tu fait ? Avec qui l'as-tu fait ?» Il lui dit au contraire d'aller et de ne plus pécher. Grande est la miséricorde de Dieu et tout aussi grande est celle de Jésus. Il nous pardonne avec une caresse. Le jubilé de la miséricorde est une conséquence de ce message et de sa présence constante dans les prêches de François. Le 13 mars 2015, pendant que j'écoutais l'homélie de la liturgie pénitentielle, au terme de laquelle le pape s'apprêtait à annoncer la proclamation de l'année sainte extraordinaire, j'ai pensé « Ce serait passionnant si je pouvais lui poser des questions portant sur les thèmes de la miséricorde et du pardon, afin d'approfondir le sens qu'il donne à ces mots en tant qu'homme et en tant que prêtre. Et cela sans chercher à obtenir des phrases choc, susceptibles d'alimenter le débat médiatique autour du synode sur la famille, débat souvent réduit à un match entre les supporters de deux équipes rivales. Sans entrer dans la casuistique, j'aimais l'idée d'une interview qui puisse mettre en lumière